présentation du Christ au Temple, et que ce n'est pas la fête de la circoncision qui était fêtée le 1er janvier. Cependant, pour expliquer un peu cette fête-là, je veux vous dire que la circoncision, le rite de la circoncision, est un rite de substitution. Je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, c'est comme ça que je l'appelle aujourd'hui en tout cas. C'est-à-dire que en enlevant à l'enfant premier-né qui doit être consacré à Dieu, comme le dit la Sainte Écriture et comme l'a répété les chants de cette nuit, le fait d'enlever un morceau de chair d'un enfant par la circoncision, c'est le faire verser son sang, c'est-à-dire symboliquement commencer à mourir, si vous voulez. Retrancher quelque chose, lui retrancher la vie, de manière à l'offrir à Dieu, pour que Dieu le prenne, l'adopte et le prenne en charge. C'est la raison pour laquelle aussi, pendant le rite de la présentation au temple que nous célébrons aujourd'hui, les parents des enfants amenaient un couple d'agneau ou un couple de tourterelles. Le rite consistait sur une vasque d'eau. Les prêtres devaient de ces deux tourterelles en égorger une et faire tomber le sang de la tourterelle dans l'eau avant de consacrer la tourterelle à Dieu, avant de la brûler. Et l'autre était jetée en l'air, était laissée à la liberté et elle s'envolait. C'était encore un rite de substitution. L'un meurt, un aspect meurt, et l'autre va à Dieu. Et c'est précisément ces rites-là, que le Seigneur, qui est Dieu lui-même, qui n'a donc pas besoin d'être consacré, le Christ, à la fois Dieu et à la fois homme, a l'humilité d'accomplir ces rites humains, ces prescriptions divines, adoptées par les hommes. Il s'humilie jusqu'à les accepter. Il assume non seulement notre condition humaine qu'il a prise en s'incarnant, mais il assume aussi les lois qui nous régissent. Les rites qui nous régissent. Il se fait homme comme tout homme. Homme de foi, homme de Dieu, homme de peuple, homme d'église, je dirais aujourd'hui. Mais il s'incarne complètement dans cela. Et en étant présenté au temple, pour un premier temps, dans les bras du vieillard Siméon, le Christ accomplit encore cette consécration-là. Il est emmené au temple, il est offert au temple, et là, il offre, par l'intermédiaire de ses parents, et on sait qui sont ses parents, la mère de Dieu, qui est une mère terrestre, avec Joseph, qui n'est pas son père terrestre, puisque son père est le père éternel. Il est consacré à Dieu, il donne sa vie, on lui fait donner sa vie à Dieu. Il est consacré. Et cette consécration-là, il l'assume en montant sur l'autel. Le rite n'était pas de monter sur l'autel, mais en entrant dans le temple, il va vers l'autel en quelque sorte. Cet autel-là, ce temple-là, qui est sa véritable demeure. le temple terrestre, le temple de Jérusalem, ou nos églises, ne sont que la reproduction sur terre, la reproduction visible d'un autre mystère, d'un autre état d'être, qui est le royaume des cieux. Donc, le Christ, en étant présenté au temple, accomplit sa mission, lui qui a assumé, qui a pris totalement sa nature humaine sur lui, il monte au temple, il entre dans le temple avec sa nature humaine, comme il va le faire à la fin de sa vie, en montant de nouveau à Jérusalem, et à travers la croix, à travers le don de son sang sur la croix, dont la circoncision n'était encore que la préfiguration, il va entrer en gloire dans le royaume des cieux avec nous, avec toute sa nature, avec sa nature humaine. C'est-à-dire que c'est une consécration de toute la nature humaine, et par là, de tout le cosmos, qui sont conduits vers Dieu. Cette réalité-là, il l'accomplit, ou du moins, on y participe, par notre propre entrée dans le temple, soit par notre conversion, notre entrée dans l'Église, dans le mystère de la vie du corps du Christ. C'est ça l'Église. On entre dans l'Église, dans le corps du Christ, on y est consacré, et on y est élevé, on y est élevé dans la gloire de Dieu, dans le royaume des cieux. Et c'est ce que nous faisons à chaque fois que nous entrons dans l'église bâtie, dans l'église de pierre ou de bois, et où nous nous consacrons à Dieu et nous venons dans notre véritable patrie, dans l'état normal dans lequel nous vivons aujourd'hui. Notre vie corporelle, notre vie charnelle n'est que une opacité, n'est qu'une modalité humaine, temporaire, provisoire, d'une autre réalité, d'un autre mode d'être, qui est notre être dans le royaume de Dieu, en Christ et avec le Christ. Si bien que ça s'accomplit à la perfection, ça s'accomplit, comme on dit, accomplissant notre prière dans les actes dits. Ça s'achève, ça se parachève par notre communion eucharistique, quand nous prenons le corps et le sang du Christ, quand nous nous laissons assimiler au corps et au sang du Christ par la force du Saint-Esprit, par notre conversion personnelle, par notre approche des saints mystères, par notre réception des dons consacrés. C'est ce que le Christ accomplit encore pendant la liturgie. Non pas qu'il renouvelle, mais auquel il nous est donné de participer éternellement, perpétuellement, de revenir perpétuellement, puisque nous sommes encore assujettis au temps, donc à la succession des moments. C'est ce qu'il a accompli pendant la liturgie. Pendant la liturgie, le prêtre prend les saints dons et proclame « Ce qui est à toi, de ce qui est à toi, nous te l'offrons en tout et pour tout. » C'est-à-dire que ce qui est à toi, c'est-à-dire la nature qui nous est donnée, qui nous vient de lui, puisque nous sommes créés à son image, nous la lui offrons, nous la lui rendons, nous élevons, nous nous laissons élever, puisque ce n'est pas grâce à nous, mais c'est par... avec notre collaboration, mais par la force du Saint-Esprit, nous élevons à cette hauteur de laquelle nous ne devrions jamais descendre, c'est-à-dire la conscience de notre présence glorieuse en Christ dans le royaume des cieux, c'est-à-dire dans la vie divine. Non seulement le Christ l'accomplit à la liturgie, mais ce que chacun d'entre nous sommes appelés à faire en permanence. C'est pas tous les jours que nous sommes circoncis. C'est pas tous les jours que nous pouvons donner notre sang rouge, notre sang physique. Et cependant, les pères disent, donne ton sang et reçois l'esprit. Il y a une manière de donner son sang qu'une manière, je vais dire, non sanglante. C'est de donner sa vie, la consacrer à Dieu. Et ça, c'est ce que nous faisons, ce que nous sommes appelés à faire par notre ascèse. Notre ascèse, le retranchement de quelque chose qui nous est utile, comme la nourriture, comme le retranchement des pensées, tous ces retranchements-là, toutes ces séparations-là, sont des actes par lesquels nous coupons, nous enlevons, nous préférons un mode de vie supérieur au mode de vie, à l'état de vie matériel et charnel. C'est une véritable, cette notre ascèse, le retranchement de nos pensées, le retranchement de notre volonté propre, c'est-à-dire de notre égoïsme, de notre égocentrisme, ce retranchement-là n'est pas une discipline, mais est une participation à l'être de Dieu par le retranchement de nous-mêmes pour le laisser lui croître en nous et nous diminuer. Mais c'est encore ce que nous accomplissons dans la prière. Dans la prière, lorsque nous disons « Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur », à chaque respiration, à chaque oubli, à chaque acte d'essai, d'abandon de nos pensées logiques pour n'être que en présence de Dieu et de le laisser agir en nous, c'est encore une manière d'accomplir ce mystère que nous célébrons, que nous fêtons aujourd'hui, d'un abandon de soi, d'une consécration de soi pour recevoir une autre vie qui est la vie divine et qu'on laisse déployer, qu'on laisse irradier notre vie. Le nom de Jésus prononcé dans la prière, c'est comme un feu, le feu divin évidemment, soufflé sur une braise, et par notre respiration, on souffle sur cette braise, on souffle sur le nom de Dieu, le nom divin, de manière à ce que petit à petit, il embrase toute la matière humaine, toute la matière charnelle. Vous avez tous l'image du barbecue sur lequel vous êtes en train de souffler. Mais justement, tout notre cœur, tout notre être et toute la création doit devenir irradié, devenir brûlant de la vie divine. Et notre ascèse, qu'elle soit celle des moines ou qu'elle soit celle des fidèles, toute notre prière, qu'elle soit et de tous, la prière de l'Église, et cette espèce de soufflet, ce rythme perpétuel, inspiré par l'Esprit-Saint, qui prie en nous, qui vit en nous, qui agit en nous, et qui souffle sur cette braise de la présence de Dieu pour consacrer le monde et le diviniser, en quelque sorte. La vie dans l'Église, la vie de l'Église, n'est pas une obligation, n'est pas une morale. Elle est l'élévation à une vie qui est authentiquement divine. Elle est humaine aussi. Elle est incarnée. Et notre rôle, c'est justement de l'incarner. Mais pour l'incarner, il faut nous élever sur l'autel, entrer dans le temple, et avec notre chair, avec toute la densité de notre être, avec nos qualités et nos défauts, avec notre matière déchue, avec notre être déchu, il faut consacrer, retrancher, couper autant que faire se peut cet être déchu pour le placer, pour le laisser placer sur le au cœur du temple, c'est-à-dire en présence de Dieu. Et la fête d'aujourd'hui n'est pas seulement le souvenir d'un épisode qui passe souvent presque inaperçu de la vie du Christ, mais cette fête-là résume tout ce qui est la vie du Christ, qu'il vit de cette manière-là, d'une manière préfigurative. Il vit sacramentellement, si je puis dire. Le terme n'est pas tout à fait juste, mais il vit par avance. Mais réellement, quand il a 40 jours, quand il entre dans le temple, il vit, il assume déjà tout ce qu'il va assumer encore pendant les 33 années qui vont suivre. Et comme nous sommes hors du temps et hors de l'espace, ce mystère prolonge, on participe encore à ces événements-là, et ça, le mystère de la vie d'aujourd'hui, de la fête d'aujourd'hui. Et ne prenons pas cette fête comme un souvenir, comme un mémorial, seulement, mais comme une participation active à cette vie que le Seigneur nous donne, si nous retranchons la nôtre. La vie chrétienne n'est pas un pensum, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une morale, mais c'est un mode de vie. C'est l'humble reconnaissance, doublement humble, c'est-à-dire qu'on reconnaît, malgré notre faiblesse, que ceci a lieu, que ceci se réalise, et cela se réalise par notre foi. Et je rappelle que la foi n'est pas l'adhésion, n'est pas la croyance en un système théologique, en une doctrine, mais elle est cette croyance, mais qui nous engage. On vit comme notre foi l'indique. On essaie de le faire. Et quand je dis on suit humblement, c'est-à-dire qu'avec la connaissance aussi de nos faiblesses, mais notre orientation, elle, est sans faiblesse. Notre réalisation connaît des faiblesses. Mais notre orientation, elle est ferme, elle est définitive, elle est totale, elle est un engagement total de notre être. C'est ce que nous célébrons, c'est ce que nous affirmons à la liturgie en disant tournons haut les cœurs. Nous les avons vers le Seigneur. C'est-à-dire que notre vie, telle que nous la faisons, telle que les événements nous conduisent, notre vie, elle est au-dessus de notre condition humaine, elle est une vocation céleste. Il y a des chapiteaux romans qui montre symboliquement ce qu'est un saint, S-A-I-N-T. Un saint, c'est un homme qui vit au-dessus de sa condition, qui vit au-delà de sa condition. Et le chapiteau représente un vieillard, la tête plutôt plus ou moins dégarnie, la barbe longue, courbé par le poids des ans, 70 ans probablement, et appuyé sur un bâton qui représente la croix, évidemment, un taf. Et il porte sur ses épaules un homme jeune, qui a les mêmes traits que lui, mais cette fois-ci chevelu, et non barbu. C'est le même homme, mais jeune. C'est-à-dire que le saint, c'est un homme éternellement jeune, il est jeune de l'éternité, et il vit au-dessus de sa condition, il est rénové, il vit au-dessus de ce qu'il vit tous les jours. Et notre vie chrétienne, c'est pas autre chose. Ceci peut nous donner l'enthousiasme de supporter nos faiblesses et de les consacrer à Dieu. Ceci peut nous donner l'enthousiasme des peines, du support des peines et des difficultés de cette vie. Ça peut nous donner aussi envie de nous consacrer à Dieu, et ça peut nous donner la force aussi de faire un peu quelque chose, de retrancher un peu quelque chose de notre vie pour la gloire de Dieu, en communion avec le Christ, par notre prière, par notre assaise, par notre lecture. C'est-à-dire que la vie de l'Église n'est pas une morale, n'est pas une obligation, mais par voie de conséquence, elle nous amène à une manière de vivre qui est une manière ascétique, qui est une manière spirituelle, qui est une manière d'au-delà, de toujours, d'une tension en avant, mais c'est la tension en avant qui est la conséquence de la vie dans laquelle nous sommes, et ce n'est pas cette tension en avant qui provoque cette vie. On met souvent les choses à l'envers. Notre morale, au sens très large du terme, notre mode de vie, si vous voulez, et notre morale n'est pas une manière d'acquérir Dieu, mais c'est parce qu'on a acquis Dieu que l'on vit de cette manière-là. Si j'étais marié, je serais fidèle à ma femme, ou je serais de l'être, non pas pour l'aimer, mais parce que je l'aime. Parce que je l'aime, je suis fidèle à elle. Et c'est pas que pour l'aimer, je dois être fidèle. Les deux sont vrais, évidemment. Et vous comprenez qu'est-ce qui va, la priorité, vous comprenez le